ça demande qu'il existe quelque chose. Et par hasard, c'était chez moi que je rencontrais mon père, était un ami de Bade, il était Vinicius. Il était musicien amateur, moi j'ai grandi dans cette environnement. Donc la bossa nova, en tout cas je connais bien l'histoire. On avait parlé de la dernière fois du début de musique au Brésil. Donc, juste pour résumer, avant le 18e siècle, il n'y avait pas de musique brésilienne. Parce qu'il n'y avait pas de ville, il n'y avait pas de pays. Brésil a été découvert en 1500 et pendant 200 ans, c'était les missionnaires, les jésuites qui sont là encore aujourd'hui. Je fais mon lycée, je crois que tout le monde ça a remarqué. Bon, voilà. Regarde. Les baïens. Je rigole parce que moi, mon père était de Bahia, ma mère était de Belém do Pará, c'est le nord. Et quelqu'un connaît un peu le Brésil? Non, personne?
J'étais amie brésilienne, mais je n'ai pas été au Brésil.
Ouais.
Je peux avoir le cahier pour même.
Voilà. Alors, le Brésil, maintenant, on ne va pas parler de politique, hein, mais maintenant, ça est venu 40 ans en arrière. Avec, les mecs qui ont pris le pouvoir. On dirait Dilma. J'espère que ça va t'arranger. On n'en parle pas beaucoup en français. Donc, je vais mettre, on va continuer un peu après le début de Lundu, etc. On va mettre. Vous avez dû entendre parler de Carmen Miranda. Miranda. C'est les années 40.
Eu cantava as tigas de cabundi. Eu cantava as tigas de cabundi.
Walt Disney.
Com a canção de tigas de cabundi.
Quando a fim que chantei avec des ananás,
eu lá tento frio. Meu coração faz tigas de
cinema americano,
e de a saudade da Bahia, onde o samba tem canjê também com a batucada. Tchic, tchic, bum, tchic, 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 bum, tchic, tchic, bum, tchic, 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 bum. É brasileiro, tchica, tchic, bum, tchic.
Eu acompanhei para ser grupo regional.
Com um pandeiro,
faz um tchic, bum, tchic. Eu vou porque acompanha
a Cholinho.
Faisait un peu d'ombre, il volait un peu la scène de Carmen Miranda et elle la virait. Il était à l'époque, dans les années 40, c'était le bebop, il y avait Benny Goodman qui était en pleine star. Donc il a joué avec tous ces gens-là, les Américains. Bon, après, il rentre au Brésil, c'était un grand génie de la guitare brésilienne. Il est mort en 1955. J'avais 35 ans, voyez-vous, en 59, il y avait 35 ans. Et c'était, encore aujourd'hui, personne ne joue plus moderne, joue comme lui. Baden Powell, c'était le grand génie de la guitare des années 60. Il disait, Garot, c'était l'exemple. Je mets tout de suite un truc de Garot, comme ça. Et Garot, le bandolin, le cavaquinho. Le cavaquinho, c'est une petite guitare. Le ukulélé, c'est une des trois noms aussi. Aujourd'hui, on dit que c'est des petites comme ça, mais c'est le seul instrument qui se jouait mélodé. Avec le banjo, après il jouait le cavaquinho, il a joué la guitare, et le fabricant de guitare ont fait une guitare en hommage à lui. Et lui, il a commencé à jouer cette guitare qui s'appelait la guitare à ténor. Donc elle est entre la guitare à six cordes normale et le cavaquinho. C'est une guitare à quatre cordes. A pas un résonateur, il a sept résonateurs en métal comme les guitares country. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Ça s'accorde en quinte, dans ce ré là, comme le banjo. Lui, il paraît qu'il s'accordait toujours dans ce ré là, parce que comme il avait commencé avec. Alors, j'ai un oncle qui, à cette époque-là, ça se jouait en direct au radio, à la radio. Il y avait une radio, une grande radio à Rio, c'est la Radio Nationale, où tout le monde passait à l'époque. Il n'y avait pas de télé, les années 40. Et les groupes jouaient en direct. Il n'y avait pas de reprise, ça n'existait pas. Donc le mec jouait, même en enregistrement, il fallait, le mec mettait le disque en acétate, comme ça. Ça partout, hein, même en France, aux États-Unis. Mettez-vous ici, si vous voulez. Et ça se jouait en direct. Et lui, un jour, j'ai un oncle qui était un ami, il le connaissait un peu. C'est le frère de mon père. Il connaissait Garot. Et un jour, il est à la Hâte nationale et Garot arrive en retard. Il n'avait pas son instrument. Le groupe qui descendait de scène, il a demandé au cavaquiniste qu'il prête son instrument. Et en montant sur scène, il écoute l'accord que l'autre utilisait. Il a joué comme si c'était son instrument. Donc, c'est-à-dire, pour montrer la grande capacité de ce mec-là, il était un problème. Et c'était... voilà. Ça, c'est la guitare. Sûr que c'est les Américains qui ont bombardé les navires marchands de Brésil. Le Brésil déclare la guerre à l'Allemagne parce qu'elle n'avait aucun intérêt à faire que le Brésil rentre en guerre. Le Brésil, c'était l'Amérique du Sud, ils étaient en Argentine, Uruguay, tous les pays étaient neutres. Même le gouvernement du Brésil était, disons, ils étaient plus sympathisants de nazis. Ils n'étaient pas nazis ni extrême droite, mais ils étaient très sympathisants. Donc il n'y avait pas de raison. Alors les Américains, ils avaient besoin de Natal. Natal, c'est la côte extrême est du Brésil. C'était la partie la plus proche de l'Afrique. Et bon, c'est ce qu'on dit. Bon. Après, il y a d'autres où on dit, ouais, théorie de complot. Mais mon père, il a fait la guerre, il était pilote. Et il dit qu'avec des copains, il faisait la patrouille de l'Atlantique Sud, et il ne voyait jamais rien. Alors, on peut se demander si c'était vrai. Je sais que bon, le Brésil a rentré en guerre en 1944, je crois. Il a envoyé une force expéditionnaire. Et à l'époque, il y avait des morceaux comme ça, des grands chanteurs. Par exemple, Vicente Celestin. Non, non, ça, je n'avais pas. Non, la Ligue nationale, quand même pas. Je vais mettre un chanteur, parce que ça, c'est l'avant Bossa Nova. C'est des chanteurs, par exemple, celui-là. Regardez-le. C'est un hymne. Accompagné par la bande de Fusiliers Navales.
Il parle de
le pays est grand et ses embrasses. Mon secret. Pas comme on dit oufaniste. Je sais pas si quelqu'un te saurait pas. Oufaniste. Oufaniste, c'est quelque chose qui donne la valeur même au-delà de la réalité. Oui, c'est un peu ça, mais plus chauvin.
Patriotiste.
Ce mot, il existe en brésilien. Oufaniste, c'est quelque chose qui est encore. Ça mélange la réalité un peu. Plus, c'est plus que patriotisme. Genre, oufaniste, c'est la terre, c'est la meilleure, je sais pas quoi. Bon, c'est genre de. C'est plus que patriotisme. Je vais mettre une femme aussi de l'époque, hein. Ça c'est des années 40, hein, tout ce morceau-là que je mets. Il y a une femme, Linda Baptiste, elles étaient deux sœurs, mais juste. Non, je veux dire, tel qu'il était écrit, je n'aurais jamais deviné. Désolé. Je comprends. Drew et. Après, ouais, ça, ouais, là maintenant, je comprends. Mais... On peut sortir ça. Je vais mettre quelque chose ici. Tout ça, c'est avant la bassa nova des années. Ça, c'est Tia Amelia. Amelia. Moi, je l'ai vu à la télé. Je grandis en regardant ce genre de trucs. Les années 60. C'est bien brésilien. C'était le premier rythme brésilien, le lundu, L-U-N-D-U, et mélangé avec le modinha, c'était des mélodies italiennes, portugaises, romantiques, donc c'était le côté européen avec le côté africain, tout ça au Brésil, tu le mélanges dans un shaker, c'est la musique brésilienne, elle est comme ça. Et ça, c'est bien le Brésil, hein, c'est un pays que c'est difficile de comprendre, hein, surtout pour les Européens. Parce qu'on a tout au Brésil. Même ma fille qui est née ici, la culture brésilienne, des fois, elle a du mal. Ma femme et moi, on est brésilien. C'est spécial. Hein. C'est vraiment, et même en Amérique latine, je ne veux pas dire qu'on est meilleur ou pire, c'est pas ça. On est différent. Parce que l'histoire de l'Amérique latine, si vous n'êtes pas au courant, c'était l'Espagne et le Portugal qui se sont partagés, le territoire est immense. Ils ont tracé une ligne, c'était le traité de Tordesillas. Et la moitié est, c'était le Brésil, c'était le Portugal. Et le côté ouest, c'était l'Espagne. Bon, ça, c'est un grand résumé. Donc le Brésil, c'est le seul pays de l'Amérique latine qui a la culture portugaise, la langue portugaise, la culture portugaise, qui était à peu près la même chose que l'Espagne, à peu près, hein, je veux dire. Parce qu'il y a une époque, ils étaient le même pays, je crois comprendre ça. L'Espagne, c'était la péninsule ibérique. Donc, après, ils sont séparés parce qu'il y a des différences culturelles. Mais bon, tout ça pour dire que le Brésil, c'est un pays que... Il ne faut pas le comprendre, il faut le sentir. Bon, moi je suis né là-bas, j'ai grandi là-bas, j'ai toute ma famille là-bas. Donc c'est comme une maladie. Je ne peux pas échapper. Même si maintenant je suis en France depuis 30 ans, mais on ne peut pas échapper. On est brésilien, on est dedans. Hein. Elle a été au Brésil. Tu es né là-bas, non?
Non. Non, mon petit frère est brésilien.
Ah, c'est ça. C'est un pays qui est spécial, surtout maintenant avec la politique, ce qui se passe là-bas, c'est n'importe quoi. Mais quand j'étais gosse, c'était pas. Et quand j'ai commencé le métier, il fallait que j'aie une carte de censure. J'ai gardé cette carte, ça c'est quand même extraordinaire. C'est musicien, il faut être fiché dans la police fédérale. Quand on parle de Bachar el-Assad, hein, ça c'était. C'est là en Amérique latine. Il y a eu de la torture, il y a eu des morts dans les dictatures. Après, on est sorti de la dictature en 84, c'est par hasard, j'arrive en France en 85, le nouveau président, il venait de... le seul président qui a été élu depuis 20 ans. Donc, bon, il est décédé. Bon, après, la démocratie a vraiment commencé. Après des années, on peut parler de ça. Les années 30, il y a eu des révolutions, des guerres internes, des guerres civiles, bon, pas très catastrophiques, mais c'était quand même, le pays était divisé en plusieurs sensibilités. Les gens de São Paulo, qui étaient, c'est comme tous les pays. São Paulo, c'était la machine économique, industrielle. Ils disaient qu'ils portaient le Brésil sur le dos. Rio, c'était la capitale culturelle. Donc, ces genres de conneries, c'est des trucs qui poussent les gens à dire ah, « je suis meilleur que toi, mon enlèvement ». Mais bon, après, les militaires en 64, ils ont pris le pouvoir pour virer le président qui était un président de gauche, sensibilité communiste. Et lui, c'était le vice-président de... Il faut que je mette ça en ordre, sinon vous n'avez rien compris. C'est qu'on entend là, les années 40. Le président, c'était Getúlio Vargas. Donc c'est un peu comme Hugo Chavez. Hein. Il a pris le pouvoir après un coup d'État. Et après, il a été élu. Hein. Donc toutes les réformes du travail qu'on a, la défense des salariés, tout, en France, c'était un peu le front de populaire. Là-bas, c'est lui. C'est le mec qui a été... Après, il a été suicidé. Il est mort, suicide. Ça aussi, c'est des accidents d'avion, d'accidents de voiture, suicide, tout ça. pour les politiciens, les grands politiciens. C'est bizarre. Moi, je ne crois pas du tout. Moi, je pense qu'on l'a tué vraiment. Parce qu'il était un personnage très important pour le peuple. Pour le peuple, parce qu'il y a toujours les gens du peuple, pas les esclavagistes, les gens, les élites, qui sont une minorité, mais très puissante. En France, vous connaissez ça. La France a vécu ça depuis 500 ans en arrière. Vous avez tellement d'histoire, vous. La France a tellement d'histoire dans ce sens-là. Mais pour nous, en Amérique, on a toujours une vision idyllique du Brésil, surtout avec le foot. Et par hasard, quand le foot va bien, le pays va mal. C'est ce qui se passe maintenant. On est devant de les éliminatoires et le pays est revenu 40 ans en arrière avec un coup d'État, monté coup d'État. Hein. On a accusé la présidente la plus honnête qu'on a pu avoir d'être corrompue. C'est ce qui se passe. C'est incroyable, mais c'est vrai.
Elle était beaucoup trop sociale, quoi.
Comment ?
Elle s'est fait virer. Elle était trop sociale.
Bien sûr, bien sûr. Alors, le mec, il trouve toutes les excuses du monde. Il y a un juge suprême au tribunal. Le mec, il veut mettre nous là, en prison. Il a décidé que... Alors, il dit que... Sans les preuves. Le mec, il dit que... Oui, parce qu'il y a des histoires qu'on a données. Il y a une grande entreprise. Bon, il y a le scandale de Petrobras. C'est la compagnie de pétrole brésilienne. Comme par hasard, le Brésil a découvert pas mal de pétrole. On est indépendant au niveau pétrole. C'est une coïncidence quand même, non? Les États-Unis, ils ont décidé que toute l'eau du monde et tout le pétrole du monde, ça appartient à eux. Donc, j'ai parlé du samba et du rythme. Mais bon, ça fait partie, parce que la bossa nova est surgie avant la dictature et à un moment où le pays était justement ce Getúlio Vargas. C'est lui qui a été élu, c'était le Parti travailliste brésilien, PTB. Et lui, il était le président du Brésil pendant la guerre. Donc, il était sympathisant plutôt de Eixo ou de l'Axe, de l'autre côté. Et comme il y a eu le bombardement des navires marchands brésiliens, le Brésil était obligé de déclarer la guerre à l'Allemagne. Donc c'est le seul pays d'Amérique latine, c'est une coïncidence, hein, c'est le seul pays d'Amérique latine qui a déclaré la guerre en Allemagne. Donc les Américains, ils ont pu utiliser la base de Natal, qui est au nord-est. C'est la base, le point le plus proche de l'Afrique. Hein. Coïncidence, hein, incroyable. Et tout ça pour dire on va arriver à la bossa nova après ça. Parce qu'il y a toujours eu des rêves de grandeur au Brésil. Ça vient de 1800, rêve de modernisme. Même le drapeau brésilien, c'est ordre et progrès, c'est une phrase positiviste. C'était le rêve du Brésil de devenir un pays industriel, un pays sorti de tiers-monde. Hein. Alors, dans les années 50, il y a eu Getúlio Vargas a été remplacé, élu par un autre président qui était élu, Juscelino Kubitschek. Et ce président, par hasard, il est mort dans un accident d'avion, après, deux années après. De coïncidence, c'est incroyable. Mais c'était un président qui était bien, il était fantastique. Il a créé l'industrie automobile au Brésil. C'est lui qui a permis Volkswagen de rentrer. Volkswagen allemand. J'ai eu ma première voiture, c'était une Coccinelle. Bon. Tout ça, c'est des coïncidences. Hein, la façon de chanter avant, c'était celle-là. Tiamel, elle a joué un rythme qui est plutôt un machiche. Je vais essayer de faire. chante ça, parce qu'après, ça... J'ai un truc mieux que moi, j'ai mieux pensé. Machiche, voilà. Ça se lançait, lever au corps. Ça s'est filmé sans, hein, c'est le rythme qui existait. Ça. Par exemple, bon, ça c'est très très moderne, mais c'est des années 40, 50 aussi. C'est juste c'est un morceau qui. Ça c'est un trio. Normalement, il y a, je crois qu'il y a piano. Ça c'est un machiche. Ça c'est un c'est guitariste, c'est BDZ. Je viens d'envoyer de Daniel, c'est un grand génie. J'ai eu la chance de connaître et de travailler avec lui. Gonzaga, c'est la femme qui est...
J'ai mon crayon qui est en panne. C'était un génie. Pianiste, mais là il joue pas dans cette émission. C'est lui qui a écrit ça.
Chance de connaître tous ces gens-là, parce que quand j'ai commencé à Rio, j'ai pu remplacer, bon, j'ai commencé à jouer à la maison avec Baden Power, bon, j'ai eu beaucoup de chance, j'ai toujours eu beaucoup de chance. Et quand j'ai commencé le métier, en 1974, jusqu'à 1974, je ne travaillais pas les instruments. Parce que la musique, c'était comme l'air que je respirais. Je ne pensais pas à travailler la musique, parce que je disais, ça veut perdre toute mon spontanéité. J'ai joué la batterie, après j'ai commencé à jouer la flûte, j'ai appris tout seul, au départ. Et quand j'ai décidé d'être professionnel, c'était grâce à Baden Powell, parce que pour acheter mon premier saxophone, j'ai dû travailler dans une immobilière, et après, on m'a proposé une place de stagiaire dans l'ingénierie, dans une dans cette immobilière, une construction de BTP. Et j'allais avoir un petit salaire, pas mal, parce que c'était comme pour un futur ingénieur. Et en même temps, Baden arrive de France, il rentre au Brésil, Baden Powell, le guitariste. Il vient à la maison, comme d'habitude, mais quand il est parti en France, moi j'ai joué la batterie. Et là, mon père me dit, va chercher la flûte et tout. Je traînais le pied, j'ai pris la flûte, on a joué un morceau carignoso. Je vais vous mettre là, c'est un morceau qui m'a suivi toute ma vie. Déjà, avec ce premier pas-là, il était complètement bourré, comme d'habitude, il buvait beaucoup. Il buvait genre 2 bouteilles de whisky par jour pendant 3 mois. Après, sans manger, hein, il mangeait très peu. Après, ils allaient tous dans des cliniques de Baden, Vinice, tout. C'est Elise Régine, dans cette clinique de décontamination, désintoxication. Voilà. Et c'était comme ça que la vie se menait, ces gens menaient la vie. Tant jovi, un peu moins tant, mais. Comment ?
Jovi, il a l'air très droit pourtant.
Non, oui, il était très, très malin, oui, il était très, comment dire, malin dans le sens. Très businessman. D'ailleurs, mon père le connaissait. Quand mon frère est né en 61, j'ai un petit frère qui est né en 61, à la maison, il y avait Baden, Vinicius, et je crois que Tom Jobim était à la maison. Ma mère, elle a eu les douleurs de l'accouchement, de partir à l'hôpital, et Baden, et tu vois, il jouait dans, elle était dans la merde, c'est pas le, c'était moi, dans le lit que. Qui roule vers la salle de part. Il bat des. Ma mère raconte ça, elle dit que c'était génial. C'est comme mon frère né. Hein. Alors Baden, quand il revient à Rio, au début des années 70, c'était le retour du grand Baden Powell. Il devait faire ce spectacle dans un théâtre d'arène qui s'appelait le Théâtre Opinion. Rio, c'est un théâtre où le théâtre n'existe plus, mais l'endroit est toujours un centre culturel. J'espère qu'ils ne vont pas faire ça un supermarché. Là, mais bon. Et j'ai commencé là. C'était un théâtre tout peint en noir. La scène était au milieu. C'était une arène. Le public était dans des gradins. Un petit théâtre. Hein, il devait avoir quoi, 300, 400 places. Mais c'était un endroit mythique, vraiment à Rio à l'époque. C'est-à-dire, les années 60, et quand je jouais avec Baden, c'était le théâtre, un des théâtres où on jouait à Rio. Alors vous imaginez, Baden, il me dit, cacao, ça c'était un dimanche, il vient à la maison, bourré, il était marié avec Marcia, qui a été l'épouse de le mec de Toulouse, Nougaro. Elle était mariée avec Nougaro.
Il a composé pour Nougaro,
certainement. C'est plutôt Nougaro qui a dû. Je ne sais pas, oui, il devrait se connaître, parce que Baden a vécu en France. Avec Eddie Barclay, il a enregistré. Il a joué avec Raymond. Le flûtiste Raymond Guillot. Le bassiste qui a fait le thème de tous les vendredis dans CFR3 à 9h, il y a une émission de Marine, comment ça s'appelle ? Thalassa. Le thème, ça a été composé par le nom, il faut que ça me revienne, c'était un bassiste français qui a composé le thème. Jean, ça va me revenir. Je le vois parce que je l'ai connu ici. En plus, le mec, le patron de l'émission, il voulait changer, il y a 15 ans, il a voulu changer le thème, c'est-à-dire faire un autre arrangement. Et Jean Gobinet, Il donne des cours ici. Hein? Jean Gobinet et moi, on était appelés pour jouer. Je crois que c'est Jean qui a écrit le nouveau arrangement, mais bon, ça n'a pas été retenu. Le compositeur, il était là. Et ce bassiste-là, je vois sa tête. Il est décédé il n'y a pas très longtemps. C'est un mec super. Bon, lui, il jouait avec Baden ici, en France. Hein. Bon, ça, c'était une parenthèse. Donc, Baden revient à Rio, il était bourré, il va chez moi, il dit « Caca, on va jouer au Carioz avec moi. » Alors, on commence à jouer. Je joue le thème avec lui. Et lui, il dit « Mercredi, tu vas jouer avec moi. » Dans cette... Moi, je dis « Ouais, mais d'accord. » Je n'ai même pas pris au sérieux. Après, bon, ils ont continué le truc. Moi, et là, mardi soir, le metteur en scène m'appelle. Et là, j'ai commencé à trembler. C'était vrai. Et il dit, Caca, moi, demain, tu peux arriver vers 4 heures. Hein, parce qu'on a trouvé une mise en scène pour toi et tout ça. Et c'était vrai. Alors j'arrive à 4h de l'après-midi, il y avait la queue pour acheter des billets qui faisaient le tour un peu du pâté de maison. Et moi j'étais là, et la scène que je vois, c'est Bad est toujours bourré, avec la guitare. Bon, il était bourré, mais il jouait. Hein. Ça, c'est pas un problème. Et Chiquinho de Moraes, qui est un grand arrangeur qui écrivait les arrangements, il avait un petit groupe de chambre avec lui, qui était un flûtiste. Raoul Mascarenhas, il y avait un percussionniste, Chaplin, un black qui jouait de flûte, le batteur Oswald, qui était batteur, il n'y avait pas de basse, il y avait un cieliste tchécoslovaque qui était au Brésil, il y avait un mec à l'hautbois aussi, Bryce. Donc ça c'était l'équipe qui jouait avec Baden, qui était prévue, qui joue, et c'était là. Il faut le répéter. Et moi j'arrive, je vois Chiquinho de Moraes qui écrit les arrangements sur la jambe comme ça. Il passait au copiste qui copiait les partitions. Et le mec qui jouait avec moi, j'étais là. Il dit putain, qu'est-ce que je vais faire là? Je n'avais jamais joué professionnellement. C'est comme ça que j'ai commencé. Hein. Alors c'était prévu qu'on fasse, que je joue du public. Et à un moment donné, Bad allait commencer à jouer Carioz. Et là, je jouerais de public. C'est ce que j'ai fait. Hein. Bon, je tremblais tellement. Le premier jour, c'était le vibrato était impressionnant. Je n'ai jamais tremblé autant. Je vous jure. Hein, ça faisait la flûte cubaine. En vibrato, mais c'était imparable. Et là, en plus, j'avais mis des copains et copines autour de moi pour être protégé. Parce que la pire des choses, c'est ça, c'est que tu regardes le public qui rentre. Ils vont te manger, c'est comme les lions qui rentrent dans la scène. Ils vont te bouffer. Parce que quand on est en coulisses, des fois, on est un peu protégé. Après, il y a le trac. Là, tu arrives, ah merde. Et là, quand tu vois les gens rentrer, tu dis, c'est bref, fais-moi, et je vraiment, je tremblais comme un baravière, comme Dieu. Et c'était prévu que je joue ce morceau, et après, Bad me présentait, je descendais, il dit, voilà, c'est quelqu'un, et on attaquait encore un ou deux morceaux. Et là, le premier jour, je descends, j'étais dans un état tellement calamiteux que j'arrive dans l'oreille de Bad, Bad, non damas, je peux plus, c'est bon, je m'en vais, c'est bon. Il dit, qui non damas, ok, après, bon, il attaque le morceau. Et j'ai dû jouer, je sais pas comment, bon, j'ai joué comme ça, j'étais dans un état incroyable. Et après, bon, je les joueurs d'applaudir, tout ça, ben, j'étais derrière. Comme ça. Tous les jours, je tremblais de moins en moins et j'ai gagné un peu plus d'assurance. Mais j'ai dû mettre du sparadrap dans la flûte parce que j'avais l'impression que la flûte allait glisser de mes doigts. Tellement je transpirais. Et bah, c'était génial. Mais bon, j'ai souffert. Hein. Et là, bon, j'ai fait le truc hein, quand même. Et le premier jour, le deuxième jour, Bad, il a arrêté de picoler. Il a rentré dans sa phase pas picolée. Et là, c'est lui qui tremblait. Parce que, mais bon, pour une autre raison. Alors, il a demandé à son chauffeur d'aller acheter un whisky. Il a mis, c'était terminé. Mais le premier jour, Bad, il est sorti de scène en train de vomir. De l'eau. Je vous jure. Hein. C'est ça. Mon premier pestacle, c'est ça. Et, c'est comme ça. Hein. Moi, j'ai pris ça pour moi. C'était dans ma vie, tout est comme ça. J'ai une histoire pour tout. Hein. Ne vous inquiétez pas. Et, après, avec Hermeto Pasquale aussi, j'ai des histoires. Après, quand on arrive, c'est comme ça. Aussi, je commençais, je disais. Après, j'ai dû travailler pendant un an pour payer un saxophone et tout ça, un saxophone brésilien. C'était un truc, même les Brabant, c'est des Porsche à côté. Vous avez compris, le saxophone était un truc horrible. C'était une marque brésilienne. Voilà. Et comme il y avait de similaires nationales, le sax Selmer coûtait 40% de plus. Donc c'était la protection du marché à l'époque. C'était similaire national, c'était pas similaire du tout. Tu ne peux pas travailler avec un souci. Il y en avait qui marchaient, ils avaient de beaux sons, mais c'était un matériel, un matériau, n'importe quoi. Et un jour, j'ai même tellement énervé que j'ai écouté Coltrane, et je ne comprenais pas, il faisait des plages de 12 minutes. Et le plus il jouait, c'était mieux. J'entendais que le saxophone, l'anche et tout, ça marchait mieux. Et le mien, c'était l'inverse. Alors, j'ai joué 5 minutes, il était parfait. Et au bout de... le plus je jouais, il se dégradait, ça fuyait de partout. C'était... Alors j'ai donné un coup un jour. Bon, j'ai enfoncé une clé de mi-mémoire, j'ai dû démonter. Bon, j'aime bien démonter les choses. J'ai démonté le saxophone, j'ai remonté. Ça n'a rien servi, j'ai réparé le truc, mais il n'était pas bon. Après, quand j'ai acheté mon premier Selmer, j'ai dit, c'est pas possible, c'est tellement lourd, c'est une mécanique. Bon, pour dire que quand j'ai commencé, tous ces musiciens, ils étaient en activité encore. Même les vieux, même encore des vieux musiciens qui avaient travaillé à l'époque du cinéma muet, ils m'ont raconté que quand le cinéma est devenu parlant, c'était la panique. Donc aujourd'hui, c'est les nouvelles technologies. À l'époque, c'était le cinéma parlant. Donc le métier a toujours été assujetti à ces gens de... Bon, je vais trop parler. Bon, ça, c'était pour montrer le bachiche. Alors, je vais vous montrer au niveau des voix. Alors, ça c'est Jamelan, c'était un chanteur, Jamelan, J-A-M-E-L-A-O-T. Il était un chanteur qu'on appelle Puxador de samba, c'est-à-dire dans les scolaires de samba, quand il défile, bon, il y a 1000-2000 personnes qui dansent, il y a la batterie de 300 figurants, et le camion qui fait la musique, il va devant. Non, ils allaient derrière, avec des haut-parleurs. Ça, dans l'époque, il y avait c'était des haut-parleurs de foire. Quoi. Et le mec, il fallait qu'il ait la voix. Et donc, tout ça pour montrer comment c'était la musique avant que la bossa nova arrive avec ce... avec Jamelan, c'est une grande voix. Hein. J'ai pu l'accompagner.
Ela disse assim: tenha pena de mim, vai embora, vai me prejudicar.
Le leader, il était un clarinettiste. C'est lui qui va jouer. Bon, je vais mettre un chorin, composition de lui. Il s'appelle Severino Araújo. C'est dommage que tout ce qu'il y a sur YouTube, j'ai jamais trouvé quelque chose de en vidéo qui soit bien. En audio, oui. Vidéo, c'est de tout enregistrer comme ça, l'orchestre, ça sonne pas très bien. C'est pas le morceau que je joue, mais j'avais oublié que c'était ça. C'est juste avant le numéro 7, Adamez Yate.
Je
Il y a des solos qui sont écrits, et c'est bien là, l'esprit de cet arrangeur, là, de clarinettiste. Ces musiciens, cet orchestre, ils ont commencé dans les années 40 au nord-est, à Pernambouc, dans la Radio Tabajara. C'est pour ça qu'il a pris la pression. Ils sont descendus à Rio. Le Brésil, c'est comme ça. Il y avait le nord-est où il y avait plus de pauvreté et les gens descendaient à Rio et surtout à São Paulo pour avoir du boulot. C'est comme si on peut transposer ça, c'est comme que ça. Les gens de l'Afrique qui viennent en Europe, en France, les ex-colonies, sauf que le Brésil, c'est tout dans le pays. Mais cette migration qui existe, moi j'adore ça. Il y a des gens qui n'aiment pas, même en France, il y a des gens qui n'aiment pas. Moi j'adore. C'est ça la vie, c'est ça qui nourrit toute cette musique. C'est bon, ils sont venus de Nord-Est, et ils ont transposé au nom de la radio Tabajara, ils ont appelé l'orchestre Tabajara. Et cet orchestre joue encore. Bon, le mec, il est mort. Je crois qu'ils étaient cinq frères. Attends, je compte bien. Il y avait un batteur, un tromboniste, un ténor, l'alto. Ils étaient cinq. Lui, Severino Araújo, il y avait Manuel Araújo à la batterie. J'ai oublié l'autre Araújo au trombone. Zé Bodega. C'était un grand saxophoniste, ténor. J'ai eu l'opportunité de travailler à côté de lui. Quand j'ai commencé à la Téléglobe, j'ai remplacé le mec. Et souvent, parce qu'on jouait les morceaux pour le lendemain. C'était les années 70, c'était les novelas, les émissions de télé. Donc on enregistrait en audio les mardis, jeudis et samedis.
pour les jours suivants. Voilà. Donc, les émissions, les novelas. J'ai eu cette chance de pouvoir, pendant 3 ans, j'ai remplacé le deuxième flûtiste, qui est un mec, un génie de la flûte, qui était malade, qui habitait dans la même rue que moi, Corping. Et je vais mettre, vous allez voir, je vais mettre. C'est ça qui m'a permis de commencer, de prendre le métier. Je n'ai jamais fait de l'école. Hein. J'aime pas ça. L'école de musique, jamais. Jamais, jamais. Je suis anti-discipline. C'est la chose que j'aime le plus chez Duke Ellington, c'est qu'il est comme moi, il était anti-discipline. Et, bon, ça s'en fout, mais bon, je veux dire. J'ai eu cette chance de pouvoir commencer à l'époque. Il y avait beaucoup de boulot et j'ai pu apprendre le métier comme ça. Et comme j'ai appris les instruments tout seul, après j'ai eu des cours pour des améliorations, mais j'ai tout appris tout seul. Et le métier m'a aidé beaucoup parce que il fallait jouer. Hein. Donc, là, quand j'ai remplacé le deuxième flûtiste, j'étais à la flûte avec le premier flûtiste de la symphonique. Il est toujours là, toujours vivant. Serge Wolzenlow, qui était un élève de Jean-Pierre Rampal. Je ne sais pas si vous dites que vous connaissez. C'était pour moi le plus grand génie de la flûte. Je l'ai vu à Rio plusieurs fois et j'ai adoré ce mec. Hein. Après, il y a Galway qui est arrivé, mais je préfère Rampal. Et j'ai acheté une vidéo de Galway qui m'a déçu un peu, pas dans la qualité. C'est aussi bien. Mais il disait des choses que je trouve bizarres, qu'un artiste dise des choses. Il est trop commerçant dans sa tête. Mais bon, c'est un génie aussi. Mais Rampal, pour moi, ça c'est... Parce qu'il était en plus un bon vivant, il aimait rigoler. Mais je n'ai pas connu, malheureusement, je n'ai pas connu personnellement. Je l'ai vu à Rio plusieurs fois. Je ne parlais pas français, je ne pouvais pas l'approcher. Je n'osais même pas. Parce qu'il était toujours entouré de fans, de gens. C'était un mec extraordinaire. Moi, comme je connaissais les musiciens et tout, j'étais toujours assis devant le premier rang, avec des chaînes supplémentaires. Et j'étais là et je buvais le son. Parce qu'il avait un son solide, la flûte. Ça m'a influencé terriblement, dans le bon sens. Alors pourquoi je parlais de... Oui, j'ai commencé à remplacer le flûtiste qui était le deuxième, Copping. Mais je vais vous envoyer un lien, vous allez voir qu'il jouait de clarinette, saxophone et flûte. Mais c'est surtout le style. Parce que pour moi, la musique, ce n'est pas la technique, c'est le style. Il faut, évidemment, si on peut avoir un peu de technique, c'est mieux. Mais c'est surtout le style qui fait pour moi un grand musicien, pas uniquement la technique. La technique, les doigts, n'importe quel chimpanzé, il se met à travailler, il va jouer parfaitement le truc. Le truc, c'est ce qui passe, je pense que vous êtes d'accord. On est des gens civilisés.
Il y a des
chimpanzés
qui ont beaucoup de style aussi.
Oui, oui, absolument. Non, mais je pense ça sincèrement. Je dis à ma fille qui chante très bien, j'ai dit à tous mes élèves, je disais ça. La technique, c'est une chose. Il faut travailler, il faut avoir de la technique. Ça, je suis catégorique. Hein. Quelqu'un qui veut faire le métier, il faut avoir de la technique. Mais au moment de jouer, il faut oublier la technique. Ça, le plus important et le plus difficile, c'est oublier la technique. Donc, il faut laisser la musique passer dedans. Et ça, c'est le plus dur. C'est le plus, vraiment, le plus... Et ceux qui arrivent à avoir ça... C'est tous ces musiciens qu'on a parlé, là, tout ce qu'on entend, Jean-Pierre Rampal, la technique et la veste, c'est bon sûr. Mais quand ils jouent, même le Muppet Show, vous avez vu ça? Le Muppet Show, quand ils jouent avec la cochonne, la Peggy, bah, c'est bon sûr, c'est délicieux. Le Muppet Show, c'était génial. Hein, il y a Gillespie qui a joué avec eux. Et tout. Il y a Buddy Rich qui a joué avec Animal. Vous n'avez pas connu, vous êtes trop jeune.
Quel
Muppet Show pour regarder sur YouTube, vous mettez Muppet Show, regardez, il y a Gillespie, il y a Rampal, Jean-Pierre Rampal, qui d'autre? Il y a, je crois, même Aznavour, il a fait, je crois, il me semble. Non, mais il y a beaucoup d'artistes qui venaient, ils font partie. Le Muppet Show, c'est des marionnettes, mais c'était hyper bien fait, et américain. Et le mec, il venait, il rentrait dans le truc, c'est comme, il rentre dans un théâtre, ils viennent pour se présenter. Et le présentateur du théâtre, c'est un crapaud, comme le crapaud qui était de Mitterrand. Là. Et c'était de vaudeville, c'était un théâtre de vaudeville, mais de marionnettes, avec tous ces mecs-là. Vous avez vu ça à l'époque? Ah, c'était des génies. Mais surtout les mecs qui venaient, quand vous les voir en pâle, comme ils se prennent pas au sérieux, ça c'est délicieux, moi j'adore. Gillespie, pareil. Buddy Rich qui joue le batteur, parce qu'il y a toujours l'image des musiciens. Alors le saxophoniste, il a un grand nez comme ça, des lunettes noires. La fin du morceau, il fait il fait une fausse note, il regarde son saxophone comme ça. C'est toujours. Et le batteur, c'est animal, c'est comme le batteur de rock. Le mec, il a toujours. On voit pas sa gueule, il n'y a que des cheveux. Quand il fait Buddy Rich avec animal, à la fin, Buddy Rich, ils font une bataille de batterie. Il a l'animal, il joue bien quand même, le musicien, il jouait bien, le musicien qui jouait par derrière les marionnettes. Et à la fin, l'animal, quand le Buddy Rich fait son solo, il répond, l'autre, il comme ça, il finit par balancer le tambour dans la tête de Buddy Rich. C'est du dessin animé, voilà. Et en parle, c'était ça. C'était la cochonne qui dit ah, « C'est qui le flûtiste? C'est qui celui-là ?» Le crapaud qui dit « Ouais, c'est Jean-Pierre, on parle, Jean-Pierre, c'est le plus grand flûtiste. » Il dit « Ah bon, fais-le venir. » Et la cochonne, elle est nulle, elle chante tout le monde. Il est deux, c'est génial. Moi, si vous voulez, je mets un lien. Bon, pour dire que j'étais avec ce premier flûtiste qui a été élève de Jean-Pierre Rampart. Et j'ai dû apprendre à jouer. Je me suis surpris en train de lire à vue, la première fois de ma vie, parce que il fallait lire, parce que les musiciens, on faisait, le matin c'était la rythmique, l'après-midi c'était le big band, deux fois je venais, je remplaçais au saxophone, et je commençais à remplacer régulièrement le flûtiste, donc je venais toujours le soir, et là il n'y avait que la symphonique, il y avait des cordes, et le premier, celle qui était super, sympa. Et moi, 20 ans, il fallait lire, hein, parce que les chefs d'orchestre qui étaient là, c'était des classiques, des mecs. Et moi, j'avais jamais lu comme ça, j'ai jamais appris à lire. J'ai appris à lire en jouant dans ce moment. Donc, je peux compter avec la bonne volonté aussi de musiciens qui étaient gentils avec moi, mais on apprend avec les méchants, en fait. Ce qui nous pousse à. C'est le mec qui dit, ouais, mais quoi, c'est pas ça, ça m'est arrivé quelquefois. Le mec dit, non, mais c'est pas comme ça, le truc, c'est le truc. Oui, d'accord. Et ça fait avancer plus que. Je vais envoyer le Muppet Show du Rampal. Ça, c'est obligé. Et après, il y a tous les liens, vous pouvez trouver. C'est vraiment génial, je vous dis. Hein, ne loupez pas parce que ça c'est les années 70.
Merci.
Parce qu'on espère que l'heure, ça va commencer à clignoter. Oui, mais... Hein? C'est à quelle heure qu'il finit?
Oui, j'ai un
truc intéressant, juste comme ça, c'est un show livre d'un compositeur classique brésilien joué par, vous savez que le fagot, il y a une école de fagot, de basson, c'est plutôt fagot, je pense que c'est l'allemand, c'est le système allemand. Il y a un des grands initiateurs du truc, c'est un français qui habitait au Brésil, qui s'appelle Noël Devos. C'est lui qui joue, parce qu'il y a ce compositeur qui a écrit des showlings pour le fagot. C'est un génie, Noël de
regarder le prochain cours. C'est toujours intéressant.
Il avait complètement raison.
qu'on va pas trouver sur YouTube. J'étais un musicien qui s'est caché un peu. Bon, il a fait des disques merveilleux, mais bon, le Brésil, c'est pas la France. Donc, les gens là-bas, il y a un meeting, mais c'est un chanteur de succès. Je vais essayer de trouver, mais il jouait dans l'orchestre de la Gloire. Bon, n'oubliez pas que la semaine prochaine, il n'y a pas c'est bon deux semaines. Parce que moi, j'avais un tour en Suisse. Hein, je crois que vous avez reçu un mail de l'Arpège, non, que vous avez, qui vous rappelait ça, non? Parce que j'ai reçu ce mail, non? C'est peut-être pas pour vous, pour d'autres mails.
Donc la semaine prochaine, il n'y a pas.
Non, pas la musique brésilienne.
Donc il y a en fait.
Ah, il y a ce tournoi.
C'est
pour ça que le mail là. C'est ça, c'est du gaz.
Merci à vous.